9h dans le bureau de Par Jupiter.
Guillaume ?
Oui.
Est-ce que t'as déjà eu envie de manger Charline ?
Oh non, mais on n'avait pas dit qu'on attendait le déjeuner pour picoler, là.
Non, mais tu vois, dans le livre de l'auteur qu'on reçoit aujourd'hui, le personnage principal a envie de manger son chef de bureau.
Bah, c'est encore la preuve qu'il faut augmenter les salaires, le travailleur crève la dalle.
Bon, allez, réponds-moi.
Oh, mais moi, tu sais, je suis végétarien.
Non, parce que tu vois, dans le livre, le personnage, il est persuadé que le chef va avoir un goût de pastèque.
Ah ouais, bah Charline, elle est belge, elle doit avoir un goût de chocolat.
Ou de chou de Bruxelles, on sait pas.
Ah, c'est vrai, eh bien, on parie.
Allez, à fond.
Allez.
On procède ?
Eh ben, faut la goûter.
14h, dans le bureau de Par Jupiter, Charline fait la sieste.
Allez, vas-y, vas-y.
Non, là. Mais ne me pousse pas.
Mais vas-y, grosse peureuse, là.
C'est quoi ? Je vais la mordre au poignet.
Ouais, ben moi, je vais la choper derrière la cheville. C'est la technique du Yorkshire.
Hey, tu crois qu'après, il faut recracher ?
Non, t'es pas une dégustation de vin, là, Juliette. Allez.
Bon, allez, à trois, on y va.
Allez.
Un.
Deux.
C'est Juliette. Je sais que c'est toi.
Ouais.
La morsure sur mon poignet. Je reconnais tes dents devant, mais vous êtes taré, ma parole.
Non, mais c'est pas ce que tu crois, Charline.
Non, mais c'est parce qu'on était à fond dans le livre de l'invité.
Mais oui, tu vas pas nous reprocher d'être à fond dans le boulot quand même.
Ah, c'est ça votre ligne de défense, les deux maboules.
Oui.
Le respect des gestes barrières.
Ah merde, oui, ça, on a pas.
Génial. Maintenant, il va falloir que je me fasse tester pour le Covid et pour la rage.
Oh, la rage, tout de suite.
Bah, ça soit la rage, soit vous êtes des débiles profonds.
Ah oui. Non, mais si ça se trouve, on a la rage.
Oui.
Et puis la prochaine fois, au lieu d'essayer de me dévorer, essayez de faire pareil que le livre de l'invité. Ça vous changera un peu.
Alors finalement, je crois que c'est le goût du vinaigre qu'elle a en vrai.
Bonjour la France Inter et bienvenue chez les chats sauvages de la blague. Donc voici la devise. Mieux vaut être seul qu'être accompagné par Jean-Michel Blanquer. Voici le sommaire. Comment dire non à Poutine quand on tient à la vie ? Comment faire pression sur Poutine quand on n'est pas suicidaire ? Comment sanctionner Poutine si on veut revoir ses enfants ?
Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes.
Certains scientifiques sont si avancés dans la réflexion sur la conquête de l'espace qu'ils prévoient des actes cannibales si on ne pense pas au plus vite à l'approvisionnement alimentaire là-haut dans les étoiles. Parce que le cannibalisme, eh ben, c'est compliqué à défendre.
Oui, mon client a dévoré sa femme et sa fille de 11 ans. Mais madame le juge, n'avez-vous jamais eu faim ? Une bonne grosse dalle ?
À quoi sert l'orthographe ? Pas tellement à communiquer, sinon on ne comprendrait pas grand monde. Et pourtant, une faute d'orthographe disqualifie souvent le message. Dès qu'il y a faute, on ne voit plus que ça, on ne le lit plus ce message.
Si vous voulez qu'on arrête le coupable...
Écoutez, Pamela a été assassinée.
A été assassinée. Vous avez fait une petite faute de liaison, il n'y a pas de T à A.
À mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnoux avec un D à la fin.
Et en l'honneur de notre invité, une équipe de maniaques alimentaires. Avec d'abord celui qui, comme tous ceux de son espèce, se nourrit exclusivement de mollusques divers, mais avec une particularité à laquelle Charline plus soit, il ne cuisine que sous comme une grive. Voici Monsieur Poulpe.
Bonjour, j'adore les muqueuses, bonjour.
De quoi est-ce que vous allez nous parler ?
Je vais vous parler du mois le plus triste de l'année, figurez-vous que c'est janvier.
Je m'en étais rendu compte. Ensuite, celui qui écrit, qui tend son micro, qui chronique, qui chante, qui joue de la guitare, c'est un homme pluriel, sauf en ce qui concerne son régime alimentaire, des coquillettes et avec comme légumes des kiwis aux cacahuètes.
C'est vrai, mais oui.
Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour, vous me connaissez trop bien. Et en plus, je vais vous parler bouffe aujourd'hui, parce que la France est celle du bon vin, de la viande, du fromage, selon Fabien Roussel, le candidat communiste. Je suis donc allé voir une France passionnée par Fabien Roussel.
Je m'en fous totalement.
Pas toute la France, bien évidemment.
Moins le 16e. Enfin, celle qui crache d'autant moins sur les nourritures terrestres qu'elle a pour tendon d'Achille une fâcheuse tendance à l'évanouissement. Dès que son taux de glycémie baisse, planquez vos gâteaux. Voici Clara Dupont-Mono.
Bonjour à tous. On va parler du livre de notre invité.
Eh oui, qui est-il ? Bien, voici celui qui va remettre Nathalie au milieu de la place rouge. Vous êtes, je vous laisse tout le dire, vous êtes...
Yegor Gran,
oui.
Bonjour.
France Inter, bonjour. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Yegor Gran. Merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous.
Alors, vous avez publié de très nombreux romans et vous avez aussi écrit de nombreuses années dans Charlie Hebdo.
Et oui.
Vous publiez à présent le journal d'Alix chez POL.
Alors, votre héroïne, Alix, donc, tient un journal intime qui, à l'entame du roman, est une pièce à conviction dans un palais de justice. Et on comprend assez vite à la lecture du journal qu'Alix pourrait effectivement hanter les pages des faits divers au vu de son fantasme qui est manger, goûter de la chair humaine. Alors, d'hommes seulement, hein. La chair des femmes ne l'intéresse pas de cette manière-là. Et ça tombe bien, le chef de bureau d'Alix au ministère l'énerve prodigieusement. De là à réveiller son appétit secret il y a peu. Est-ce que Yegor Gran, c'est votre premier journal intime ?
Oui, sous cette forme-là, oui. Mais vous savez, Alix, c'est moi. Hein,
Allez,
comme Flaubert. Hein, voilà. Au départ,
je quitte ce studio immédiatement.
Au départ, c'était c'était un personnage plutôt, j'allais dire noir, peut-être. Et puis petit à petit, je me suis habitué à cette présence androphage hein, de quelqu'un qui a envie de manger un homme, exclusivement un homme. Alors, elle n'est jamais passée à l'acte. C'est pour ça qu'elle se met à écrire. Hein. L'écriture est un exutoire. C'est comme disait Pessoa, une fuite et un refuge. Et elle essaie de comprendre déjà comment lui est venue cette envie, d'essayer de la domestiquer avec plus ou moins de succès. Enfin, on verra.
On verra. On va pas le dévoiler. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous mettre dans la peau d'une femme pour écrire cette histoire et d'une femme lesbienne de surcroît ?
Oh, ben ça, c'est par hasard. Hein. C'est...
Par hasard.
Oh. On en a lu d'autres, des livres, attention.
On connaît un petit peu l'histoire des livres, quand même, hein, monsieur.
Non, mais.
Je viens de dire que c'était lui, vous êtes une femme lesbienne.
Voilà, exactement. Non, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était de voir le potentiel narratif d'un féminisme radical, dirons-nous, puisque manger un homme, on ne fait pas plus radical. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a eu les SCOM, hein, la Society for Cutting Up Men, hein, littéralement la société pour émasculer les hommes aux États-Unis, mais là, c'est un degré encore plus radical d'essayer de s'approprier. Il n'y a pas pire tabou hein, que de manger, de s'approprier la puissance paternaliste de l'homme. Que de le déguster.
Sauf qu'on a les pages de faits divers, en règle générale, on va dire à 99%, quand il y a des cas de cannibalisme, ce sont des hommes qui mangent d'autres hommes
ou des femmes. Oui, et c'est intolérable.
Ah bah surtout pour la personne qui s'est mangée.
Si on veut qu'il y ait au moins une parité quelque part,
c'est dans un souci de rétablir la parité que vous avez choisi de mettre une femme lesbienne qui est entre vos pages d'accord.
Mais c'est pas un pléonasme, femme lesbienne, dans le fond ? Vous êtes un homme lesbienne, en fait.
Ah oui.
Ah d'accord.
Absolument.
Je pose la question.
On est toujours à l'antenne ou pas ? Je ne me rends pas compte.
Je me pose des questions comme ça, je vous les livre telles qu'elles arrivent.
En 2011, vous aviez publié un livre qui s'appelle « L'écologie en bas de chez moi » et dans lequel vous tourniez en dérision l'écologie qui, à ce moment-là, était moins présente dans nos vies que maintenant. Là, c'est une sorte de radicalité féministe. Est-ce que pour vous, l'écrivain, il est chargé, quelque part, de...
passer
non mais oh là là n'écoutez pas Yegor Gran de passer au crible
habitué,
non
hein.
De passer de prendre les grands courants qui traversent une société et justement de les tourner en dérision, de les parodier, de pousser le curseur un peu loin.
Alors, je ne sais pas si c'est le boulot de l'écrivain, mais moi, j'aime bien parfois le faire. Je ne le fais pas systématiquement dans mes livres. J'ai des livres tout à fait, on va dire, déconnectés de l'actualité. La chose, moi, qui me travaille depuis toujours, c'est l'idée que on est là un peu par hasard. Notre société, qui nous paraît parfaitement bien construite avec nos normes, est en fait le résultat d'une succession de hasards. Le fait que, par exemple, on soit tous habillés ici, alors qu'on pourrait être à poil, par exemple, c'est le résultat d'une norme.
Ça peut s'arranger.
C'est vrai. Ouais,
voilà, exactement.
Non, mais il a raison.
Oui. Dans d'autres sociétés, si on avait suivi une évolution un petit peu différente, il serait au contraire mal vu d'être habillé, par exemple. On serait moqué, voire emprisonné. Si vous allez sur une plage nudiste, par exemple, donc vous avez un micro univers où on a le droit d'être à poil, il est interdit d'être habillé ou de porter un maillot. Donc, vous voyez, tout est extrêmement fragile. On a malgré tout la perception que l'ordre est parfaitement, comment dire, construit petit à petit, presque rationnel, mais en fait non. Et donc moi j'aime bien m'interroger sur la fragilité de notre ordre social.
Donc c'est la norme en fait que vous remettez en question à chaque fois.
Oh, je la remets pas en question, mais disons que elle m'inspire. Je trouve des pépites de narration. Voilà, ça m'intéresse d'imaginer ce qui pourrait arriver si on pousse en effet la logique un peu plus loin.
Alors, un des si de votre histoire, du journal d'Alix, c'est que Alix ferait, dans deux milieux qui sont pratiquement exclusivement féminins, son service au ministère de la Culture, où, à part le chef, tout le monde est une femme, et son atelier d'écriture, qui est dirigé par une femme, et les autres participants à cet atelier sont des femmes. Ça aussi, c'était une volonté d'immerger Alix dans des milieux où il y a que des femmes.
Alors, il se trouve que ça arrive qu'il y ait des qu'il y ait voilà des services exclusivement féminins avec un chef masculin à sa tête.
Ça c'est même assez courant.
Voilà, donc je n'ai pas fait preuve d'une incroyable imagination en faisant ça. Dans les ateliers d'écriture par ailleurs, ça arrive que des femmes écrivaines animent des ateliers d'écriture.
Oui, bien sûr.
Et donc, en fait, les deux... Alors, elle s'inscrit à un atelier d'écriture parce que elle sent qu'elle n'est pas une écrivaine professionnelle. Elle commence son journal. D'ailleurs, elle a du mal au départ à écrire, à raconter précisément. Elle commence... chaque page commence par une réflexion qui paraît bien structurée. Et puis ensuite, la pensée vagabonde. Et ensuite, se termine par des interrogations. D'ailleurs, chaque journée chez elle se termine par une interrogation en forme de QCM, un peu qu'elle s'adresse à elle-même, sur le mode des magazines féminins d'ailleurs, où elle s'interroge, faut-il que je place le congélateur sous mon frigo ou au-dessus du frigo ?
Et auquel elle ne répond jamais.
Non, elle ne répond jamais. Elle est toujours dans le doute.
Yegor Gran publie le journal d'Alix, son roman paru chez POL. Clara Dupont-Monod va le chroniquer tout à l'heure. Nous sommes avec Monsieur Poulpe, Guillaume à venir, Juliette, et un journal de 17h17 bien sûr qui arrive juste derrière. Valérie June, You Can't Be Told. Il y a les disques qui plantent.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est le mois de janvier. Je pense que même la console, la régie, est au bout de sa vie. Elle veut plus. La régie, elle a tout lâché. Elle n'en peut plus. Elle a envie de sortir, boire, danser. Elle a dit, Valérie June, je m'en fous. Voilà. J'ai un petit peu meublé.
Oui, et je crois qu'il n'y a pas d'habillage pour le journal.
C'est quoi un habillage? C'est quoi un habillage pour le journal?
C'est les sons.
Mais c'est Yegor qui a dit que l'habillage, c'était une
norme. Je peux les faire?
Si vous voulez, il paraît que dans 30 secondes, normalement, tout va se réallumer.
Donc là, il faut...
Avant, je peux vous présenter qui est autour de la table.
Voilà, c'est ça.
Donc à ma gauche, vous avez Clara Dupont-Monod, habillée en noir. Ensuite, Monsieur Poulpe, habillé en noir. Et ensuite, notre invité, Yegor Gran, habillé en noir. Voilà. Et qui n'est pas habillé en noir?
Ben voilà.
Eh bien, la personne avec qui vous allez présenter ce journal.
Guillaume Meurice. Voilà. Excusez-nous, chers auditeurs, on a encore une petite troupe amateur d'une petite radio locale. On a deux, trois petits ratés, mais ça va venir. Allez, journal.
rythme avec 12,7% d'audience cumulée. France Inter reste de loin, de très loin, la première radio de France en creusant nettement l'écart avec ses concurrents.
Non mais c'est formidable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce sont des gens qui font de la propagande tous les matins avec votre argent.
Le journal, presque 17h17.
Vive le service public, vive France Inter.
Et on commence par les titres.
Oui, parce que des titres, ça, nous avons ça, sous
a,
la main.
Ça, on a.
Et dans ce journal, on décryptera le programme d'Anne Hidalgo.
Ah d'accord, bon, on va faire un journal de 30 secondes, quoi.
Ouais. Alors, on parlera aussi des soutiens de Valérie Pécresse.
Ah ouais, 10 secondes, en fait. Journal de 10 secondes, quoi.
Et vraiment, enfin, on parlera des apéros de Juliette Arnaud.
Ah, là, voilà. Ça peut durer peut-être 2-3 heures.
2-3 heures minimum.
On le temps. Allez. Allons-y et commençons par la politique.
Oui. Anne Hidalgo prend acte de son échec.
Ça y est, oui, elle retire sa candidature. C'est bien légitime, elle était au plus bas dans les,
non,
dans
non,
les
non.
sondages.
Était complètement, attendez, était j'ai pas fini. Coulée. Anne Hidalgo prend acte de son échec à réunir la gauche via une primaire et souhaite donc aller au bout de son projet présidentiel.
Ah, je me suis emballé, je me suis un petit peu trop emballé.
Je crois d'ailleurs, la candidate socialiste a présenté son programme aujourd'hui et nous avons un son de la présentation de son programme.
On l'écoute. Ah, c'est ça, on reconnaît bien. Ouais.
Ça souffle.
Ouais.
Oh, une éolienne, ça touche.
C'est intéressant. Ouais. Ça lui correspond bien.
Ouais. D'ailleurs, ce matin, Anne Hidalgo était l'invitée.
Attendez, parce que Charlie, on va fixer
France
des règles.
Parce que
les blagues sur Hidalgo, je propose de recommencer à en faire quand elle sera à plus de 5% dans les sondages.
Ah.
Sinon, c'est de la méchanceté pure, je trouve.
Ok.
Vous voyez ce que je veux dire. Sinon,
ok, ça me va. Ça va. Mais donc, on peut pas faire de blagues sur Europe 1 non plus, du coup.
Non, voilà. Donc, on ne tire pas sur les ambulances.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Alors, on va donc parler d'Arnaud Montebourg.
Non. Sur les corbillards non plus. On ne tire pas sur les corbillards.
Mince. Je sais pas. Sur le cirque Pinder, on peut tirer ou pas
Sur le cirque Pinder, essayez, je sais pas.
Ok. Allez-y. Alors, en marge du Conseil des ministres, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer ont eu une vive explication.
Ah, la bagarre Véran-Blanquer. On n'avait rien vu de plus excitant depuis l'image de Michel Houellebecq en slip qui fume une roulée. Que vous avez d'ailleurs à présent tous dans la tête.
Oula, j'ai l'image, c'est visuel. Hein,
Excusez-moi pour ça, mais.
Invité sur TF1, Brigitte Macron a évoqué Rabelais, qui lui aussi avait un langage fleuri pour justifier les propos de son mari sur les non-vaccinés.
Oh là, mais qu'elle aille se faire foutre, elle aussi.
Non, mais qu'est-ce qui vous prend
Non, je cite Montaigne, quand il s'était cogné le petit orteil dans sa table de nuit.
Il en a fait un livre d'ailleurs.
Oui, exact.
Pardon, oui, d'accord. Oui. Alors, international, accusé d'avoir organisé une soirée alcoolisée en plein confinement, Boris Johnson s'est excusé, il a expliqué que c'était, je le cite, un événement de travail.
Voilà, c'était avec Juliette Arnaud.
Voilà, c'était à peu près la blague qu'on avait écrite, mais niquez-nous.
Ça prouve cette communauté d'esprit qui est entre nous. Même dans l'improvisation, bam.
Ça prouve qu'on a les mêmes blagues que Monsieur Poulpe. Et ça, c'est vraiment dramatique.
International,
toujours.
Oui, Gaza, le Hamas prétend avoir capturé un dauphin israélien armé.
Eh oui, s'il finit mal, il va finir en papillote.
Vous êtes sûr de celle-là, Charline?
Oui, parce que je me suis dit, si ça tourne mal, on dirait qu'elle vient de Ramzi, notre co-auteur.
Oui, c'est Ramzi qui l'a écrit.
Voilà,
je me souviens, j'étais là quand elle a imaginé.
Hamdoullah, ça n'arrivera pas.
Oh là là.
En plus, Poulpe, il ne l'avait pas non plus.
Non,
allez, international encore. Au Texas, une femme roule avec son fils dans le coffre et elle a expliqué qu'elle ne voulait pas être contaminée par le Covid.
C'est exactement la même excuse utilisée par Nordal Lelandais.
Voilà. Science à présent. Des chercheurs ont découvert une exoplanète en forme de ballon de rugby. Elle se serait tassée avec le temps à cause de la gravité.
Un truc qui se tasse avec le temps à cause de la gravité. Chez nous, on appelle ça le corps de Monsieur Poulpe.
Merci beaucoup.
Ça, on était sûr qu'il ne l'avait pas non plus passé. Il n'a pas fait. Science toujours. Le cerveau des chiens est capable de différencier les langues entendues.
C'est fou de se dire que le cerveau du chien a plus de capacité que celui de Jean-Pierre Raffarin.
Quand et enfin, selon une étude israélienne, les poissons rouges peuvent conduire des véhicules.
C'est fou de se dire que les poissons rouges ont plus de capacité que Benoît Magimel.
Merci Guillaume Meurice.
La vie, c'est fou.
Yegor Gran, écrivain, notre compagnie. Et on va aborder ce premier thème. Poutine semble tenir l'Europe au creux de sa main, d'autant que le régime qu'il a mis en place en Russie a inspiré plusieurs dirigeants européens. C'est un petit peu le parrain des autocrates et des populistes occidentaux comme Le Pen et Zob. Affectif, ça faisait longtemps. Et malheur à celui qui s'oppose à Poutine, malheur à celui qui essayerait de rouler des mécaniques devant lui en entretien. Il y en a qui ont essayé, rappelez-vous.
Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui.
n'était pas bien pépère ce jour-là. Nicolas Sarkozy, le 7 juin 2007, lors du G8, un mois après son élection, voilà dans quel état on le retrouve après avoir tenté de bomber légèrement le torse devant Vladimir Poutine. Yegor Gran, vous avez souhaité évoquer la situation en Ukraine.
Oui, enfin, je trouve sidérant que la campagne présidentielle française, par exemple, ne s'en préoccupe absolument pas, alors que il y a une menace de guerre très sérieuse, hein, là, juste aux portes de l'Europe, avec une menace existentielle pour l'Europe. Hein, c'est-à-dire, Poutine ne cache pas son mépris total et absolu pour la démocratie européenne et l'envie de saboter, de mettre ça un petit peu en l'air. Et pourtant, voilà un sujet qui est pouf, qui n'existe pas. Pendant cette semaine était cruciale. Hein, il y avait les discussions entre oui. l'OTAN et la Russie. Il y avait des discussions entre les Américains et la Russie. Et l'Europe n'était pas là. La France encore moins. donc c'est assez étonnant.
Oui. Alors, faut rappeler que vous êtes d'origine russe. Vous êtes né, vous avez grandi là-bas. Vous êtes arrivé en France, vous aviez 10 ans, c'est ça, hein ?
Oui, à peu près. Oui.
Et quand vous écriviez dans Charlie Hebdo, est-ce que c'était l'occasion pour vous de lâcher ce style un peu satirique et de vous lâcher sur la Russie de Poutine ?
Ah ben j'ai pas écrit sur la Russie.
Non, pas que, mais voilà.
Il se trouve que la Russie est un pays très drôle aussi. Hein. en plus d'être parce que justement ils ont cette alliance de les plus grands fails qu'on voit sur Internet se produisent en Russie. quand on est vraiment coincé avec le moral dans les chaussettes, il faut regarder sur YouTube une série comme ça de fails l'humeur revient très vite. Non, c'est un pays et dangereux et en même temps imprévisible et en même temps c'est un nain. C'est un nain économique. Le PIB de la Russie est à peine supérieur à celui de l'Espagne.
J'espère que le Kremlin nous écoute pas parce que là on est tous morts.
C'est eux qu'on fait planter la régie, je pense.
non, c'est vrai que oui, c'est la Russie a le PIB de l'Espagne.
Oui, à peu près. C'est un pays où vous seriez incapable de citer un seul produit exporté par la Russie à part la vodka et le Kalachnikov. C'est un pays presque à structure bananière africaine de l'époque, de la haute époque, où on prélève tout ce qui est dans le sous-sol et on essaie de le vendre et d'enrichir une toute petite poignée de gens qui contrôlent ce système. Et c'est un pays dangereux parce que avec le nationalisme là mis sur le feu dans la marmite et poussé par Poutine jusqu'à l'ébullition, eh bien ça vous fait quelqu'un qui est extrêmement agressif.
Voilà qui fait froid dans le dos. Je vous propose de se détendre un petit peu, Yegor Gran, car aujourd'hui est avec nous Monsieur Poulpe.
Oh ouf, on est sauvés.
Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est la chronique de Poulpe. Ça groove. Ouais. Doja Cat sur France Inter avec Woman. Les femmes, on les adore, on les embrasse, on les déteste, mais elles nous laissent pas indifférents. Bonjour tout le monde, ça va? Les filles, Charline, Juliette, Clara, Guillaume, ouais. Cette chanson était pour vous.
Merci.
Yegor, bonjour. Comment allez-vous en ce mois de janvier, Yegor?
Bah plutôt bien.
Ouais.
Ouais, c'est étrange.
Vous m'aidez pas dans ma chronique, mais je vais faire comme si vous aviez dit que ça allait pas. Alors selon une étude scientifique, le mois de janvier est le mois le plus triste de l'année, comme vous disiez à l'instant, Yegor. Il y a une autre étude scientifique qui montre que certains lapins mangent 300 crottes par jour. C'est dingue, hein. Ça n'a rien à voir, mais je trouvais ça incroyable comme chiffre. Bref, on va plutôt parler de la tristesse du mois de janvier. Ce lundi 17 janvier qui arrive, on s'apprête à vivre le jour le plus triste de l'année, puisque le troisième lundi du mois de janvier, alas, le Blue Monday, ou en français, le jour à la merde, hein, parfaitement traduit, serait le jour le plus déprimant de l'année. Mais vous me connaissez, Yegor, je suis votre bon gros loulou, et vous pouvez compter sur moi, et donc vous aider, ainsi que nos auditeurs et auditrices, à surmonter ce cap. Je vous propose de trouver de la sérénité grâce au développement personnel. Car dans le développement personnel, il n'y a pas de jugement, pas d'opinion préconçue, c'est respectueux de l'humain, c'est quand même beaucoup mieux que vos romans de merde, Clara. Pardon, je suis désolé, mais un roman c'est inventé, Igor est d'accord avec moi, je pense juste on invente, il n'y a rien d'exceptionnel en fait, c'est nul quoi. On peut juste dire, ah Tom Tom et Nana vont chercher un saucisson, ok, waouh, super, on peut en faire une trilogie, génial. Bref, pour affronter ce mois de janvier pas facile, je vous propose à vous qui nous écoutez, à vous aussi dans le studio, une méditation guidée, un moment pour vous. Alors fermez les yeux et prenez vos chaussures de randonnée mentale. puisque je vous amène en voyage intérieur. Je vais vous demander de prendre le temps. Inspire, expire. En pleine conscience de vous-même, vous êtes détendu. Vous commencez maintenant à former une image mentale. Vous êtes dans un couloir d'immeuble. La moquette est chaude. Vous êtes relaxé. Des chiens courent vers vous et aboient. De la bave pend de leur canine dirigée vers vous. Vous êtes détendu, zen, apaisé. Vous vous dirigez vers un ascenseur. Le soleil traverse la vitre. Il vous réchauffe. Inspire, expire. C'est un moment doux où vous êtes bercé par la vibration de l'ascenseur. Petit à petit, les câbles lâchent, un par un. Vous les regardez, vous êtes zen. Soudain, l'ascenseur tombe très vite. Vous êtes relaxé, détendu. Vous regardez par la vitre. Le sol se rapproche très rapidement. Inspire, expire. Guillaume et Juliette, détendez-vous. Parce que moi, je suis là pour vous, en fait. Donc, vous vous apaisez. Parce que si vous n'êtes pas détendu, je vais vous taper très, très fort. Je vais vous taper fort. Vous êtes maintenant face à un lac paisible. Vous vous allongez sur la plage, calme et tranquille. Et vous allez maintenant lâcher prise. Vous sentez le sable à vos pieds. Vous êtes ancré. Il est temps de vous reconnecter avec vous-même. Il est temps de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Inspire, expire. On écoute son enfant intérieur. Bébé tout sale. Bébé a fait caca. Il faut laver bébé. Bébé a été très vilain. Bébé et Guigui vont devoir prendre un bain. Et Juju va laver bébé. Frotter bébé. Voilà, vous êtes apaisé, vous êtes parfaitement serein. Grâce à ces exercices, vous avez oublié votre tracas du quotidien, que vous sentez désespérément seul, même en couple, hein, vos problèmes d'argent, ou même que le capitalisme qui consiste à vous spolier le fruit de votre travail pour enrichir une élite qui ronge la planète. Vous avez même oublié le Covid, hein, qui ne s'arrête jamais, qui empêche toute possibilité de projection dans le futur et nous prive finalement de la vie et de tout sens qui nous fait prendre conscience de la vacuité de notre existence. Voilà, vous avez oublié justement tout ça, sauf une chose bien sûr, c'est qui votre bon gros loulou ? C'est bébé.
C'était Monsieur Poulpe, mon gros bébé. On peut le retrouver du mardi au vendredi sur Twitch à 9h30. Sur sa chaîne Chez Poulpe, en compagnie de David Mourier, dans son émission Morning Gallery.
Vous êtes invité, bien sûr.
Oh, merci, mon Poulpinou. Ah, cette pointe d'humour noir qui a dû... Ça doit vous plaire, ça, Yegor Gratz. C'est votre truc, l'humour noir, mais bien sûr.
Mais pas que.
Yéli, Yéli, liberté sur France Inter.
Quand je ne sais plus.
la playlist France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Le romancier Yegor Gran est en notre compagnie. Il publie le journal d'Alix. Alors, son roman chez POL. Il s'agit notamment d'anthropophagie en toute détente. Et Clara Dupont-Mono va nous en parler tout à l'heure, bien sûr, Yegor. Je vous présente Guillaume Meurice.
Eh bien, on va parler bouffe aujourd'hui. C'est une des thématiques de la présidentielle. Il y a eu le outing de Jadot qui a dit qu'il aime le foie gras pas industriel. Donc, qui valide le concept de torture éco-responsable. Guantanamo is the new Naturalia. Et puis, on a Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui a dit que la France, c'était le vin, le fromage et la viande, qui est devenue une sorte de Lénine sauce gribiche, si vous voulez. On est donc passé de Mao à Maïté, du petit livre rouge au mille et une recettes avec du rouge. Vous voyez, les temps changent. Vous qui êtes né en Union soviétique, Yegor, je pense que vous êtes tranquille. Ils ont remplacé le goulag par le flunch. Donc là, vous êtes peinard. En tout cas, la thématique, elle est là. Et c'est un sujet qui intéresse les Français. Je sais parce que je suis encore allé voir les Français ce matin, parce que voilà, j'aime ça. J'aime ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils pensent des déclarations de Fabien Roussel?
Il a raison. Il défend le terroir français.
Est-ce qu'on peut être français si on n'aime pas ça, pardon?
Je sais pas, si on est musulman arrivé depuis peu de temps en France, eh ben, vous n'aimez pas le fromage, tout ça.
Vous pensez que les musulmans n'aiment pas le fromage?
Je sais pas, moi j'en sais rien.
Il faudrait se renseigner quand même. Il faudrait se renseigner parce qu'il y a un danger. Hein. Ça tient à rien le choc des civilisations. Hein. Un bout de claquos près, on est bon, on est parti. Heureusement que Charles Martel n'a pas arrêté les Arabes à Saint-Nectaire, ça compliquerait encore plus les choses. C'est un sujet sensible, la bouffe en France. J'avais mal anticipé à quel point c'est sensible.
Non, ne me posez pas de questions sur la bonne bouffe. J'en ai ras-le-bol de toutes ces histoires de biologie, de machin, de trucs. Ne me fous de la qualité de ce qu'on mange. Ne racontez que le sucre, c'est mauvais, c'est de la connerie.
Moi, ça me va parce que je suis influenceur galette, là. Depuis une semaine, j'en suis à ma 40e. Donc moi, je veux bien croire, c'est des conneries. Bouffer du sucre, à mon avis, le diabète, c'est dans la tête. Les maladies cardiovasculaires, c'est un coup des Chinois, me disait Poulpe encore tout à l'heure. Ou pire, des végétariens. Cela aussi, il faut s'en méfier, végétariens.
On a besoin de protides. Or, les végétaux, zéro végétaux, apportent des protides. Donc, nous faire des beefsteaks avec de la courgette et un peu de papier et je sais pas quoi... Ça, c'est une stupidité.
Alors oui, stop au beefsteak courgette papier. Ça, c'est long. À mon avis, cette dame, elle va à la cantine de Radio France, d'ailleurs. Ouais, petit message personnel. Il n'y a pas de protéines dans les végétaux. D'ailleurs, on le sait, hein, le terme protéine végétale n'existe pas. C'est un terme inventé par Émeric Caron pour financer ses brushings. Donc soyons vigilants, quand même. C'est très dangereux, ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Attention au mouvement vegan. Hein, encore
pire. Ah bah, les mouvements vegan, moi, j'y suis confortée parce que j'ai une de mes petites filles qui est végétarienne.
Ah.
Elle fait des efforts. Une ou deux fois par semaine, elle accepte de manger une fois du poisson, une fois de la viande.
C'est une végétarienne qui mange de la viande et du poisson.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, oui. Bon, ça, c'est comme Charline qui a complètement arrêté l'alcool, à part la bière à midi, hein, selon la célèbre citation, et le vin chaud, puisqu'il n'y a pas d'alcool dedans, selon le Gérard Depardieu Institute. C'est vrai que c'est intéressant de faire ses propres études, hein, vous avez raison, hein, voilà, de bosser là-dessus. Quant à la viande, c'est culturel, de toute façon.
On a toujours tué des animaux pour manger, quand même. Comment Yves Selle, dans le temps, les hommes préhistoriques, ils tuaient des animaux.
Vous, personnellement, est-ce que vous allez plutôt chasser
Je vais à Monoprix, à Franprix aussi.
Voilà, c'est ça, c'est une chasse traditionnelle. On est sur une chasse traditionnelle au caddie. Voilà, c'est la chasse au caddie, comme on l'appelle, c'est l'instinct. Elle va pêcher chez Picard, voilà, elle demande à Captain Igloo pour avoir les meilleurs plans, les petits conseils. On a cet instinct naturel en nous, et on a cet instinct de chasser des aliments, par exemple, la pizza. On chasse la pizza régulièrement. Et ça énerve la dame, ça.
Oh oui, ah ben là, il y a de trop et n'importe quelle pizza. Hein. C'est pas quand même un plat de chez nous, hein.
C'est choquant alors que ce soit pas un plat de chez nous. Ça vous...
Peut-être que les gens qui se rabattent sur ça n'ont pas de connaissance des plats locaux, quoi.
Il y a peut-être ça. Il y a peut-être une méconnaissance du plat local chez le mangeur de pizza. C'est dommage, il faudrait faire de l'éducation parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des pizzas à l'ananas, hein, je rappelle. Il y a des raclettes au chocolat aujourd'hui, on est là, hein. Allô, non mais il me regarde comme ça, genre bah quoi ? Là, la gastronomie quoi, la bouffe, faut résister quoi. Il en va de la défense de notre patrie.
C'est une des caractéristiques du français, du bien manger, oui, c'est sûr.
Est-ce que ça forme notre identité ?
Oui, je pense.
Sachant quand même qu'un des plats préférés en France, c'est le couscous.
Oui, bon, enfin bon, on peut tergiverser là-dessus, mais enfin bon, je pense que...
Oui, c'est la vérité.
Le même bourguignon me paraît plus réussi. Non, enfin attendez, pas charrier quand même.
Oh non, faut pas charrier. Voilà, arrêtons de charrier. On va pas quand même se faire grand remplacer nos assiettes. Laura Grave, réagissez sur le hashtag je suis bœuf bourguignon. Elle va être longue, cette compresse. Elle va être longue. Et voilà, et les éléments de langage, toujours aussi durs à avaler. Allez, bon appétit quand même.
Merci, Guillaume Meurice. J'ai l'impression que vous avez donné très envie de saucisson ou de blanquette à Clara du Coupon Mono.
Elle va sortir de son
Monsieur Poulpe est végétarien aussi.
Je suis végétarien, mais la courgette de Guillaume me fait rêver toutes les nuits.
Ok, Yegor Grad est avec nous. Restez avec nous, Yegor, surtout. Ne partez pas.
Merci. Non, pourquoi voulez-vous ?
Merci, Guillaume. Vous savez quoi ? On va reparler anthropophagie, je propose. Ah, Juliette.
Bouffe.
Donc l'être humain n'a été qu'une seule fois sur la Lune, mais déjà, il semblerait qu'on s'affaire à envisager de coloniser la Lune de Jupiter ou la Lune de Saturne. Alors c'est grand, c'est héroïque, c'est exaltant la conquête de l'espace, mais un astrobiologiste prévient qu'il faut penser à la cantoche. Parce que si l'intendance ne suit pas, c'est au cannibalisme qu'on risque d'arriver. Et le cannibalisme, c'est très effrayant, presque aussi effrayant que les conversations que ça peut faire naître.
Si tu devais manger un humain, tu mangerais un homme ou une femme ?
Une femme.
C'est pas logique.
Et pourquoi ?
Bah parce que si tous les mecs ils avaient le même régime alimentaire que toi, il n'y aurait plus personne à baiser.
Moi, mais la meuf, j'ai déjà goûté un peu. Je sais que j'aime bien.
Attends, c'est-à-dire si je te dis Beyoncé ou Jay-Z ?
Mais Beyoncé, direct.
Bah t'es con. Parce que si tu manges Jay-Z, tu peux en avoir pour longtemps, déjà. Ensuite, Beyoncé, elle est libre, tu peux la ken.
Bah ouais, c'est sûr que le seul truc qui nous empêche de ken Beyoncé, c'est la présence de Jay-Z.
Ah non, mais si tu manges Jay-Z, t'augmentes tes chances. Est-ce que si tu manges Beyoncé, t'annules tes chances? Moi, ce que je veux, c'est être dans Beyoncé, pas avoir Beyoncé dans moi.
Mais t'as vu la qualité de ce que tu manges déjà, toi? Tu penses vraiment que tu peux manger Jay-Z, c'est un mets fin qui coûte des millions d'euros. Je sais pas, tout ce que tu peux bouffer, c'est des nuggets de demandeurs d'emploi.
C'était Gringe et Orelsan dans
Gringe. Faites attention parce qu'on le reçoit bientôt.
Mais c'est ça.
Il vient
ça
très,
va
très
être
bientôt.
Affreux. Allez, Gringe et Orelsan dans la capsule bloquée. Est-ce que vous étiez au courant, Yegor Gran?
Deux.
Qu'on était à ce point avancé dans les réflexions sur la colonisation de l'espace.
Qu'on allait manger. Non, mais
qu'il fallait s'inquiéter de comment on peut pas transporter autant de nourriture parce que c'est beaucoup trop loin. Donc il faut avoir
être pragmatique. L'homme est une source de protéines. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut, il n'y a aucun sujet sacré. Il faut, voilà. Moi, je propose qu'avant qu'ils partent, que ça soit déjà, programmé, si vous voulez, qui sera mangé en premier, ou peut-être une fois sur place que les auditeurs votent. en fonction de ce que les types déclarent, etc.
Après, on n'est pas obligé de tuer pour manger, on peut faire juste des carpaccio de fesses. Sans juste entamer les humains, mais pas les finir, quoi.
C'est vrai.
Et puis on peut également attendre que les gens meurent et les manger une fois qu'ils sont morts de leur belle mort.
Oui, mais on peut attendre longtemps, hein, si c'est.
Oui, le problème, c'est ça,
c'est qu'il
vaut
mieux précipiter.
On peut attendre longtemps. Est-ce que c'est l'article qu'on vous a fait passer là sur cet astrobiologiste qui vraiment s'inquiète, il dit qu'il faut essayer de penser à inventer des moyens de cultiver d'abord dans les endroits où on va aller avant de penser à les coloniser.
Article de Slate.
Un article de Slate. Est-ce que c'est une chose qui vous fait réfléchir ou qui pourrait vous inspirer un roman ou...
Peut-être pas directement comme ça. Enfin, l'espace moyen. Moi, je trouve ça un petit peu effrayant d'aller dans l'espace alors qu'il y a tellement de choses inconnues juste là sous nos pieds dans le monde microscopique ou même en se déplaçant un petit peu ou même en regardant des choses que les autres ne voient pas. Par exemple, savez-vous que dans un champ, juste un champ tout bête en France, vous avez une diversité biologique absolument phénoménale. Je sais plus combien de millions de micro-espèces, milliards de micro-espèces, et que en fait on n'arrive même pas à comprendre comment ces choses-là interagissent entre elles et arrivent à rester vivantes sans exploser nulle part. Donc moi je trouve que s'il faut chercher des extraterrestres, il faut les chercher chez nous.
Ouais, mais je crois que c'est moins héroïque. Enfin, que ça paraît moins héroïque comme quête que d'essayer de s'élever dans les étoiles.
Oui, mais enfin, que va-t-on y trouver au mieux, hein, franchement, au mieux. Au mieux, on va trouver une planète avec des gens dessus qui sont peut-être un peu plus évolués que nous et on leur donnera l'idée de venir nous envahir.
Et dont la chair est peut-être moins bonne que la nôtre, en plus.
Bah oui, non, mais ils se diront, tiens, il y a quand même cette planète bleue qui avait l'air inhabitée, mais finalement, elle l'est. Il y a peut-être des choses à faire.
Après, vu le sort de la planète bleue,
Peut-être qu'il va falloir chercher d'autres planètes.
C'est pour ça qu'ils sont en train de réfléchir.
Pour sauver nos fesses, afin d'en faire des carpaccio. Voilà, je pense que la boucle est bouclée. Beau travail d'équipe avec une passe décisive de Monsieur Poulpe. Et maintenant, je passe la balle à Clara Dupont-Mono et c'est bientôt le but.
Oh là là, je suis parmi les remplaçants. Alors, Yegor Gran, je ne vous connais pas bien, donc je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de drôle dans la vraie vie. Mais ce que je sais, c'est que vos livres sont drôles. Or, écrire drôle, eh ben, c'est très difficile. Vous avez une espèce de deuxième degré vitriolé et je vous range parmi ces écrivains contemporains acides qui caressent gentiment la joue de notre époque et feignent ensuite de s'étonner. « Ah tiens, j'ai la joue dans ma main ? Oh, madame l'époque, je vous ai arraché la gueule, mes excuses. » Voilà, ça c'est un peu votre démarche littéraire. Ainsi, votre dernier roman, « Le journal d'Alix », montre une femme très remontée contre le patriarcat, d'ailleurs elle dit les dominants, et qui, au nom de cette conviction, devient elle-même un tyran sanguinaire, notamment envers son amoureuse, qu'elle finit par appeler ma chienne. Bon. Ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est votre décor. Parce que le décor de ce livre, c'est la vie de bureau. Et pas n'importe laquelle. Nous sommes dans un institut du ministère de la Culture qui s'occupe de pondre des rapports comme, je cite, « l'engagement éco-citoyen, une priorité du département prospective, qu'il faudra bien sûr faire valider par la direction des enquêtes de terrain ». Il se trouve, Yegor Gran, que les grands romans adorent la vie de bureau. Dans L'étranger de Camus, Meursault est un petit employé de paperasse, je cite, « aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé au bureau, le patron a été aimable ». Dans un autre roman dont je vous parle souvent ici, qui s'appelle Bartleby, d'Herman Melville, Bartleby est un petit employé dans une étude juridique située à Wall Street. Wall Street, c'est littéralement chemin de mur. Et d'ailleurs, le bureau de Bartleby donne sur un mur de briques aveugle. Pour dénoncer l'aliénation du capitalisme, Melville pose une cage dans une cage. En fait, c'est ce qu'il fait. Et en effet, dans votre livre, Alix devient une bête sauvage qui veut sortir de sa cage. Elle sort les griffes, elle saute à la gorge de son supérieur, nommé Vaillancourt, qui est un homme. Elle monte le troupeau du bureau contre lui, et comme toute espèce animale, c'est la nourriture qui va être l'enjeu des luttes, c'est la cantine de l'entreprise qui cristallise la colère. Alix et sa collègue imposent des menus végétariens. Le service informatique est contre, Vaillancourt aussi, mais comme il est lâche, il fait semblant d'aimer les lentilles. Mais vous voyez, le self est le champ de bataille des entreprises, le Waterloo des open space. Et on voit aussi que la vie de bureau, parce qu'elle est enfermante et absurde, eh ben elle peut réveiller des énergies, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben c'est la surchauffe, c'est l'appel de la révolte, et l'appel de l'irréparable. Alors l'irréparable de Meursault, dans L'étranger de Camus, c'est le meurtre. Bon, carré. Par contre, l'irréparable de Bartleby, c'est juste une phrase qui l'oppose au patron. « Je préférerais ne pas », c'est ce qu'il répète à chaque fois quand le patron lui demande quelque chose, « je préférerais ne pas », résistance passive, coup d'état tout en finesse. En fait, Bartleby, il démontre qu'être punk, c'est être délicat. Alix, la vôtre, elle est plus maligne. L'irréparable, elle le fait faire. Elle délègue l'irréparable. Elle arrive à ses fins, mais c'est pas elle la responsable. Et ce faisant, elle imite les fameux dominants, pardon, qu'elle n'aime pas, à qui elle reproche d'avoir le pouvoir sans en endosser la responsabilité. Elle leur reproche d'orchestrer tout en restant planquée, et c'est finalement un peu ce qu'elle fait. Comme quoi, la contestation est un art subtil, à méditer Guillaume Meurice, mais c'est ce que vous démontrez Yegor Gran dans le journal d'Alix paru aux éditions POL.
Merci Clara Dupont-Mono. Si la contestation est un art subtil, on va pas aller bien loin.
Ah bah c'est pour ça, à méditer. Mantra pour les 10 prochaines années.
Pour les deux.
Subtilité
et moins
subtil. Qu'est-ce que ça veut dire subtil ? C'est quoi ?
Nous on voit pas. On sait pas ce que c'est.
Voilà.
C'est ça le problème.
Et voilà.
Merci Clara Dupont-Mono. Une chronique à réécouter en podcast, bien sûr, si vous le souhaitez. Yegor Gran, on va aborder cet autre thème qui vous tient à cœur, cette question. À quoi sert l'orthographe ? À part à nous traumatiser dès l'enfance. Nous sommes pourtant très à cheval là-dessus, au point de disqualifier tout message entaché d'une faute. Par exemple, si vous écrivez sur un panneau « Blanquer d'émission » avec un seul S, ça sera contre-productif, bien sûr. Pourtant, on comprend le message. C'est rare que ça se joue à une lettre près, quand même.
Qu'est-ce que tu me fais, toi ?
Quoi ?
Il est où, le U ?
Quel U ?
Le U.
Où ça, le U ?
Rassure-moi, la balle, tu sais lire.
Ouais.
Alors il est où, le U de l'ambulance ? Tête de nœud !
Il y a un U dans Amblance.
Redis, voir.
Amblance. Amblance. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non?
C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La balle.
Ambulance. But. Il y a un but, là.
C'est Laurent Gamelon et Laurent Capelluto dans Rien à déclarer, le film de Danny Boone. Vous vous posez cette question, Yegor Gran, à quoi sert l'orthographe?
Bah, c'est une question que personne ne se pose, en fait. C'est-à-dire qu'on nous impose l'orthographe, on nous impose ces normes que tout bébé, tout enfant doit apprendre. Et Dieu sait qu'on souffre, hein, Dieu sait qu'on a des zéros en dictée, etc. Moi, j'en ai eu beaucoup, hein, j'ai eu à apprendre le français. Sans qu'on se pose finalement jamais la question à quoi ça sert. Alors je comprends quand on apprend 2 plus 2 égale 4, je comprends l'utilité parfaite de ce 2 plus 2 égale 4 dans un univers financier. En revanche, savoir que loup s'écrivait qu'un P à la fin, ce n'est pas évident. L'utilité de cette norme n'est pas évidente. Non seulement elle n'est pas évidente, mais elle est il n'y a aucune justification, on ne peut pas le justifier. Alors
certains... Bah si, on peut le justifier par l'origine du mot qui vient de lupus, du latin.
Oui, mais comment justifiez-vous que le féminin c'est pas loupe dans ce cas-là, mais louve.
Mais vous trouvez pas qu'en tant qu'écrivain, c'est ça qui est beau, c'est que ce soit pas évident et que chaque fois ce soit pas facile, que ce soit un peu exigeant, que ça porte la trace de l'histoire, qu'il y ait des pas de côté, qu'il y ait des bifurcations, c'est merveilleux.
Alors
la question et la réponse.
En tant que historien de la langue, ça peut être intéressant. En tant qu'écrivain, je dirais que c'est plutôt pénible parce que je ne connais pas un seul écrivain chez POL, hein, ou en tout cas mon éditeur, qui écrive sans faute. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un pays, d'ailleurs, tellement obsédé par l'orthographe qu'il y a des championnats d'orthographe, la fameuse dictée hein, qu'on a, de Prosper Mérimée, qui ensuite a été popularisée par Pivot, où le meilleur, c'est un agrégé, il fait 5 fautes.
Donc, alors que la meilleure dictée, objectivement, c'est celui qui écrirait le plus vite au chronomètre. Oui. Et puis, bah oui, c'est pas ça les concours, c'est celui qui va le plus vite.
Ouais,
Charline, ouais. On sent la personne qui en a un peu bavé sur l'orthographe, non?
Comme tout à chacun.
Votre langue maternelle, c'est le russe.
Ma langue maternelle est le russe, mais le français est ma langue paternelle, au sens où je l'ai vraiment mangé.
À la petite cuillère.
Tous ici, nous avons bavé à apprendre ces règles. Il y a ce qui est drôle dans votre remarque, c'est que il y a en France en particulier, mais c'est vrai pour tous les pays. Une fois qu'on a appris une règle, on est tout content de la connaître. Il y a un léger snobisme de la règle, c'est-à-dire que par rapport à celui quand on connaît une règle, on est déjà mieux que celui qui n'en connaît pas, mais on est moins bien que celui qui en connaît trois.
On est plus proche du ludique. Et la règle à la radio, c'est le timing, c'est le questionnaire de Parjupi Proust maintenant.
Oh là là, c'est beau.
Sur l'échelle du roman macabre écrit à la première personne du singulier. 10 tout en haut étant American Psycho, 0 tout en bas étant Mémoire d'un âne. À combien situez-vous le vôtre?
Bah 10. Autant prendre le meilleur.
Tremble Bretisson Illis. Pour survivre, vous êtes en situation de devoir manger de la chair humaine. Alors au choix, c'est n'importe lequel ou laquelle des candidates présidentielles. Ah. Qui?
Je voulais me porter volontaire.
Ça ne sera pas vous, Poulpe.
Mais j'ai du ventre à perdre.
C'est qui la plus grosse, le plus gros?
Oh oui, ça va être bien. Engagez-vous là-dedans.
Bonne idée, on va recevoir du courrier, ça va être très très bien.
Je ne vous suivrai pas. Non, allez-y.
Non, mais je ne sais pas. Il faut être pratique.
Le plus tendre, peut-être. Le plus tendre des candidats.
Non, mais si j'en suis réduit à ça, c'est qu'il faut prendre là où il y a le plus de réservoirs. Donc, alors franchement, là, je sais pas, faudrait les peser.
C'est quoi? Vous faisiez Zemmour, on en parle plus.
Alors Zemmour, non, parce qu'il a l'air vraiment maigre. Non,
n'ayez pas pitié non plus.
Vous êtes né en 1964 comme Jean-Michel Blanquer, comme Juliette Binoche et comme Elisabeth Lévy. Qui est votre jumelle de cœur?
Je sais pas. Dans cette liste-là,
oui.
Non, aucune.
Enfin, vous choisissez personne?
Non, je choisis personne.
Non, très bien. Vous préférez vivre dans une dictature de la bien-pensance ou une dictature des GAFA?
Dans une dictature des GAFA.
Mais c'est pas déjà le cas ?
Si, justement.
Je vous fais une faveur, vous pouvez faire un Paris-Moscou avec le personnage de fiction de votre choix. Qui est l'élu ?
Le personnage de fiction que je préfère, c'est Robinson Crusoe, mais malheureusement, il voudra pas parce qu'il est tellement bien sur son île que.
Il n'y a aucune raison que qu'il aille ni à Paris ni à Moscou.
Merci Juliette Arnaud. Et merci Yegor Gran d'avoir passé 7 heures en notre compagnie. Je rappelle votre roman, Le Journal d'Alix, paru chez POL. Merci beaucoup les amis. Merci Monsieur Poulpe. On fera
plaisir.
Donc un carpaccio de ventre.
Aussi, ah, si vous me faites plaisir.
Merci Clara Dupont-Mono. Merci Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Je vous dis pas, moi personnellement, à demain. Je vous dis à demain pour l'émission, mais je vous laisserai entre les mains, je laisse les clés de l'émission à Alex et Juliette, bien sûr.
Attendez deux minutes que je remette ma culotte. Oh!